Bonsoir à tous, bienvenue. Vous êtes en direct du studio Kalangou au micro d'Allo Mariama Kenda. Il est 18h, le journal en français, c'est tout de suite. À la une de cette édition, sport football, la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 a débuté hier samedi. Le MENA national, qui jouait à domicile, a fait un match nul 0-0 contre le Swaziland. L'analyse de ce résultat par Sekou Berry, un confrère journaliste. Demain, 12 juin, sera célébrée la journée mondiale contre le travail des enfants, le point des différents secteurs où exercent ces enfants avec l'association pour la lutte contre le travail des enfants Alten, une ONG de la place. Enfin, le point des événements qui ont marqué la semaine, la rétrospective signée à la Sainte Cousi Mahamadou. Merci de rester à l'écoute. La première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 a débuté hier samedi. Le MENA national, qui jouait à domicile, a fait match nul 0-0 contre le Swaziland. Le Niger, qui compte deux participations 2012 à 2013, se trouve dans le groupe J composé de l'Égypte, demi-finaliste à la dernière CAN, la Tunisie, quart de finaliste, et le Swaziland qui n'a jamais participé à une phase finale de Coupe africaine des nations. Le second match de cette poule se jouera aujourd'hui à Tunis entre la Tunisie et l'Égypte. Selon notre confrère journaliste sportif Sekou Berry de la Voile du Sahel, le Niger vient de perdre une belle chance de se qualifier. Il est joint au téléphone par Moussa Hassan.
Dans ce genre de compétition, chacun gagne chez lui. Si vous laissez un nul, vous hypothéquez un peu vos chances de qualification. Surtout que le groupe est composé de l'Égypte, de la Tunisie, de cette équipe du Swaziland, qui passait être le petit poussé. En vérité, c'est le MENA qui est le poussé dans cette poule. Par rapport au match, l'entraîneur a manqué de coach par rapport à ses choix. C'est vrai qu'il ne faut pas l'acculer à fond, je le disais, parce qu'il n'a pas eu véritablement le temps de travailler. Certains professionnels sont arrivés jeudi, vendredi. Donc, il n'a pas eu le temps de, justement de mettre en place son schéma tactique. La deuxième chose qu'il faut dire, aucun match amical depuis 2 ans. C'est énorme pour une équipe nationale qui aspire à une qualification, parce que pour nous, c'est devenu un luxe. Faute de moi, vous connaissez la situation du pays. On ne peut pas jouer un match amical. Or, si vous ne jouez pas un match amical, comment pouvez-vous corriger les erreurs? On a eu le professionnel qui l'a voulu tous mettre en même temps sur le terrain. Vous voyez bien que ce n'est pas facile. La qualification, moi, personnellement, je n'y crois pas tellement parce qu'on devait prendre 3 points à chaque fois que nous jouons à domicile.
Sekou Berry, journaliste sportif. Les matchs de la deuxième journée se joueront en mars 2018. Demain 12 juin sera célébrée la journée mondiale contre le travail des enfants. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, en 2002, le travail des enfants concernait 246 millions d'enfants entre 5 et 17 ans, soit un enfant sur 6 à l'échelle de la planète, essentiellement dans l'agriculture. Le Niger est à la page de garde, a déclaré le coordonnateur de l'association pour la lutte contre le travail des enfants, Alten Mahamadou Moussa. Selon lui, le manque d'éducation des enfants avec un taux de scolarisation d'environ 72% et la pauvreté contribuent à la situation de travail des enfants. Mahamadou Moussa donne des précisions sur les secteurs d'activité où on trouve ces enfants.
L'une des dernières études qu'on avait faites date de 98 avec le Bureau international du travail. Et là, nous avons repéré le secteur de l'agriculture, nous avons repéré le secteur du commerce, donc notamment la vente d'objets. Mais malheureusement encore, nous avons observé qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la simple mendicité. La simple mendicité, beaucoup d'enfants se retrouvent, malheureusement il n'y a pas de statistiques qui nous permettent de dénombrer ces enfants-là. Mais aujourd'hui, à vue d'œil, que ce soit dans des grandes villes comme Niamey, Maradi, Zender-Tawa, vous allez remarquer que dans la rue, la plupart des enfants que vous rencontrez, en tout cas à des heures scolaires, sont des enfants talibés qui sont en train de mendier pour chercher leur pita. Donc on peut vraiment se dire que pratiquement beaucoup de secteurs d'activité occupent les enfants. Mais dans le cadre également des pires formes, vous en avez beaucoup dans les abattoirs, dans les sites aurifères traditionnels. Donc à ce niveau-là, vous allez trouver des enfants qui sont en grand nombre utilisés dans des situations qui hypothèquent leur avenir.
Mahamadou Moussa, coordonnateur de Alten. Les récentes évolutions diplomatiques dans la région du Golfe ont conduit le gouvernement du Niger à faire le rappel en consultation de son ambassadeur au Qatar. Cette décision a été annoncée avant-hier sur le compte Twitter du ministre des Affaires étrangères du Niger, Ibrahim Yacouba. Que signifie réellement ce rappel de l'ambassadeur au Qatar? Les précisions avec Moussa Hassan.
Pour faire connaître leur position, exprimer leurs réserves, les gouvernements ont à leur disposition un arsenal varié de mesures. Le rappel de l'ambassadeur pour consultation en fait partie. Il signifie que l'ambassadeur rentre de façon temporaire dans son pays. C'est une façon pour l'État qui prend cette décision de marquer son mécontentement. Pendant cette période qui peut durer de quelques jours à quelques semaines, il n'y a plus de relation normale entre les deux pays. La décision nigérienne intervient après un entretien jeudi entre le président du Niger, Mahamadou Issoufou, et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Niger, Turki bin Naji Al-Ali, selon la télévision d'État nigérienne. Dans cette crise, d'autres pays ont quant à eux décidé la rupture des relations diplomatiques avec Doha, sur le cas de l'Arabie Saoudite, des Émirats et le Bahreïn, pays voisin du Qatar, mais aussi de l'Égypte et du Yémen. Dans ce cas, l'ambassadeur doit partir pour une durée indéterminée et l'ambassade est fermée.
L'école normale des instituteurs à Bawaj en Gorzo de Maradi a proclamé mardi dernier les résultats des évaluations des élèves maîtres de la première année. Ainsi, sur un total de 876 élèves, 598 passent en deuxième année, 202 redoublent et 76 ont été exclus car leur moyenne est inférieure à 8. Ces exclusions font du bruit à Maradi, ce qui a motivé la sortie médiatique du directeur général Lémi Kamis Cherfidine. Pour lui, ces résultats obtenus sans complaisance reflètent le niveau des élèves. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Maman.
Aujourd'hui, l'une des faiblesses de notre système éducatif, c'est le faible niveau de formation de nos enseignants. Or, on ne peut pas continuer à assister impuissant à la dégradation continue de notre système éducatif. Et nous pensons que l'une des mesures à prendre pour que redresser le système éducatif, c'est d'abord mettre à la disposition des enseignants de qualité. Il ne faut pas que les gens s'attardent sur des échecs en oubliant qu'en fermant les yeux sur des aberrations qui font que nous envoyons dans le système des enseignants, et je pèse bien mon mot, des enseignants, alors qu'ils sont même incapables de s'exprimer. Et par conséquent, nous pensons que si nous voulons que le système éducatif se redresse un tout petit peu, il faudrait qu'à chaque niveau, nous prenions les dispositions pour que les activités liées à la formation initiale d'enseignants soient des activités non seulement de qualité, mais aussi que la formation soit rigoureuse pour qu'au finish, pour le bonheur de notre système éducatif, que nous ayons dans le système des enseignants vraiment de qualité.
Un propos recueilli par Mohamed Maman, notre correspondant à Maradi. Éducation encore, avec ces chiffres communiqués par les autorités académiques de la région d'Agadez. En effet, malgré les perturbations qui ont marqué l'année 2016-2017, le directeur régional des enseignements secondaires d'Agadez, Bra Ayoub, assure que le taux d'exécution du programme des candidats au BEPC et au BAC est respectivement de 72 et 70%. Par conséquent, il considère que les élèves sont prêts pour les examens. Bra Ayoub au micro de Moussa Maman.
Du point de vue préparation, nous savons que bon, les candidats ont fait l'essentiel des programmes. Même en année normale, on ne fait pas un programme à 100%. Et les gens, pour tous ceux qui connaissent la profession enseignante, savent que on ne finit jamais un programme. Mais le taux d'exécution que nous avons nous permet de dire que bon, en fait, nos candidats vont composer et vraiment avec un taux d'exécution de programme très avancé, plus de 70% quand même, c'est très bien. Même dans les années normales, en tout cas du point de vue statistique, bon, en fait, c'est comme ça. C'est pour expliquer que au moment où certains des enseignants ou certains élèves des autres niveaux ne suivent pas les activités pédagogiques, de l'autre côté, et je profite aussi pour remercier nos collègues qui ont tenu jusqu'à présent bon, les candidats qui sont en classe d'examen.
Propos recueillis par Moussa Maman. Pour refermer ce chapitre éducation, je vous rappelle que les examens pour le brevet et le baccalauréat sont prévus respectivement les 4 et 11 juillet prochains, occasion pour certaines écoles de présenter les nouvelles mesures prises pour prévenir les éventuelles fraudes. C'est le cas de la direction du complexe d'enseignement secondaire Rive-Droite 1. Moutari Ibrahim, le proviseur de cet établissement, détaille au micro de Soumana Amadou l'arsenal antifraude qu'il compte utiliser.
Vous savez que l'utilisation des portables dans les salles de cours est formellement interdite. Un élève surpris dans la salle d'examen avec un portable, automatiquement c'est un zéro sur la matière du jour. Les élèves, il y a là où on affiche leur numéro de table. Ils essaient de déplacer ça pour mettre ça ailleurs. Et ça, c'est une tentative de fraude. Dès qu'un candidat fait ça, automatiquement, pour la matière qu'il va composer, là, on lui donne un zéro. Et vous savez qu'un zéro, très souvent, c'est déjà l'échec. Chaque fois, on constate, et ceux qui sont dans le jury font le rapport. Maintenant, c'est vraiment réglementé, et puis c'est comme ça.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
À présent, la partie magazine, elle est consacrée, comme vous le savez, chaque dimanche à un condensé des faits ayant marqué, dominé l'actualité. La rétrospective est signée à la Sainte Cousi Mahamadou.
À l'Assemblée nationale, la loi des finances rectificatives pour l'année 2017 a été votée par 124 voix pour et 30 contre mercredi 7 juin passé. L'augmentation de plus de 45 milliards sur le budget initial a constitué le motif principal de cette loi. Ainsi, le budget initial qui était de 1809,49 milliards passe à 1855,36 milliards de francs CFA. Au plan judiciaire, l'on note la condamnation mardi dernier du président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FR. DDR Amadou Djibo dit Max. Ce dernier écope d'une peine de 3 mois de prison avec sursis. Et à Agadez, le tribunal de grande instance a rendu son verdict le jeudi 8 juin dernier concernant Insar Abdrahmane, acteur de la société civile et membre de la Révolution démocratique. Il est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Au plan social, la Fédération nigérienne des personnes handicapées a fait connaître son mécontentement et son désapprobation de la création d'une direction d'assistance aux groupes vulnérables en lieu et place de la direction en charge de la promotion des droits des personnes handicapées et de la protection des personnes âgées. Alzouma Idrissa, président de la FNPH, conteste cette nouvelle appellation et l'idée d'assistance qu'elle recouvre.
On parle de direction d'assistance aux groupes vulnérables, alors qu'avant l'appellation c'était la direction qui est en charge de la promotion des droits des personnes handicapées et de la protection des personnes âgées. Et nous voudrions que les autorités sachent que nous voulions que la question du handicap soit vue sous l'angle du droit et non de l'assistance et non de la mendicité et non de la pitié. Le Niger a ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées en 2008, en s'engageant à respecter les droits de la personne handicapée, la personnalité de la personne handicapée. Nous ne pouvons pas comprendre que maintenant nous soyons en train de marcher à reculons.
Enfin, volet sécurité, lundi 5 juin passé, les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel ont tenu leur 3e sommet à Bamako au Mali. Pour l'occasion, ils ont reçu la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini. Il a été présenté le projet de création de forces armées conjointes chargées de la sécurité des frontières communes des pays membres du G5 Sahel, que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le plan de création de forces prévoit un effectif d'au moins 5000 hommes pour combattre les groupes djihadistes. Au sortir de ce sommet, l'Union européenne a promis d'allouer 50 millions d'euros pour appuyer la force conjointe du G5 Sahel.
Voilà, c'est tout pour ce journal réalisé par Alassane Cousi Mamadou, la partie technique à Santaoui.